Vendredi, donc le 6 janvier, et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors, nous allons parler ce matin d'un autre sujet tabou au Québec. Alors, le suicide, c'est un enjeu de taille. Pour ceux qui ne le savent pas, justement, nous sommes en pleine semaine nationale de prévention contre le suicide. Cette semaine nationale de prévention du suicide a débuté le 1er février et elle se terminera demain le 7. Alors pourquoi elle est nationale? Parce qu'elle est à l'échelle nationale et surtout parce qu'elle révèle un chiffre de suicide alarmant. Il s'agit réellement d'un problème extrêmement, je dis bien et je le souligne, extrêmement grave. On parle de 3 à 4 personnes au Québec qui s'enlèvent la vie chaque jour. Alors je le répète aussi, c'est un sujet tabou puisque personne ne veut réellement parler des causes des suicides au Québec. On parle, et de quelle manière, de la prévention, mais jamais, jamais, jamais des causes. Alors il faut que je vous répète ce chiffre parce qu'il me semble que vous n'avez pas encore branché, je vous dis, au Québec, chère auditrice, cher auditeur. 3 à 4 personnes se suicident chaque jour. C'est une vraie catastrophe. Le gouvernement actuel, comme ceux qui l'ont précédé, encourage certains organismes par des subventions de parler uniquement de la prévention. Mais attention, il ne faut, et je dis bien, il ne faut jamais citer les causes des suicides au Québec. C'est un tabou. Ceux qui le font de temps en temps sont très prudents et, je dis bien, avares de mots. Alors, dans le suicide, ce n'est pas la mort de la personne, c'est-à-dire ce n'est pas la mort qu'une personne cherche, mais la fin de ses souffrances en se suicide par manque de choix. Je dis bien 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie au Québec. On parle de toute une population qui se suicide annuellement. Le chiffre est effrayant. Imaginez-vous de 1100 à 1460 Québécois et Québécoises qui se suicident par année. Le suicide des hommes en particulier frôle les 80% de ce nombre qui donne la chair de poule et personne n'ose discuter de cette catastrophe au Québec. Nous sommes rendus à la 25e semaine nationale de prévention contre le suicide sans que le nombre de victimes recule, je dis bien recule, au contraire, le chiffre augmente. Les statistiques ont cessé de nous tracer la courbe qui pique de plus en plus vers le bas. Le nombre devenu alarmant qu'on a cessé de citer les statistiques du suicide depuis 2012. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ou plutôt, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On applique simplement la politique du silence. Le silence est une réponse au Québec. Alors, cette semaine nationale de prévention du suicide va prendre fin demain pour tourner la page et la tourner rapidement. Au cours de cette semaine, avez-vous entendu parler dans les médias de cette semaine de prévention? Presque nul. Et si je vous demande, bien sûr, avez-vous entendu un seul média qui a osé d'ailleurs, ou plutôt même d'aller chercher les causes des suicides au Québec? Là, je peux vous assurer aucun, même pas l'ombre d'une discussion. Maintenant, savez-vous, chère auditrice, chère auditeur, pourquoi le nombre de suicides au Québec est devenu bouleversant au point presque de ne pas croire à cette réalité amère qui secoue pourtant cette société qui joue à l'Autriche et qui ne veut pas faire face à un défi, un tel défi. Alors, ne pas parler justement des causes qui poussent les individus à mettre fin à leur vie est une erreur, et je dis bien, est une grande erreur. Maintenant, n'oublie jamais, chère auditrice, chère auditeur, que le suicide n'est jamais un choix. Je dis bien, n'est jamais un choix. Le suicide est un acte pour mettre fin à une douleur insupportable, à une incompréhension démesurée, à une injustice mal gérée. Quand les injustices frappent violemment, l'homme perd la mémoire, perd le goût de vivre, il cesse de se battre et voilà une façon d'éclipser rapidement vers un autre monde, peut-être pour lui un peu meilleur. Alors, 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour au Québec et personne ne veut connaître les raisons qui amènent ces individus à choisir cette voie. J'ai discuté avec des acteurs, des organismes qui œuvrent dans ce milieu. Personne n'a souhaité révéler les causes réelles du suicide au Québec. Tout le monde a voulu parler de la prévention, mais personne n'a voulu s'aventurer sur ce terrain glissant, les causes des suicides au Québec. Et pourtant, derrière chaque suicide, chère auditrice, cher auditeur, il y a une injustice. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir justement pourquoi les gens se suicident au Québec et avec un nombre assez élevé. Alors, est-ce que les injustices, justement, dans toutes leurs formes, sont derrière ce taux de suicide, ou bien la loi du silence qui fait ravage, l'impunité de l'abus de l'autorité rend les gens fous quand le système judiciaire désavantage injustement une personne contre une autre, ça révolte jusqu'à l'idée de se détruire. L'abus du pouvoir sème le sentiment de l'injustice au fond des individus qui se sont moins que rien. L'aveuglement de la plupart des fonctionnaires de l'État et leur négligence sont de conséquences énormes sur la vie des citoyens. Alors le mensonge de l'État aussi. Je le répète aussi, le mensonge de l'État pousse les gens à se suicider. Le système qui s'échappe à tout contrôle pousse les gens à se jeter dans le vide. L'appareil du système judiciaire est devenu un monstre, un transit, un raccourci pour s'enfuir d'une vie de souffrance sans fin. Alors maintenant, parler aux gens qui ont des problèmes avec le problème de santé, parler aux gens qui ont des problèmes avec le système de l'éducation, avec le chômage, avec la justice, avec la DPJ, avec l'itinérance, et j'en passe. Les injustices au Québec sont énormes. Je dis bien, ils sont tout à fait énormes. Tout le monde le sait, mais on ferme les yeux sous prétexte que la société est devenue complexe. Le système fait des victimes chaque jour par défaut. Bref, j'ai dit bien, derrière chaque suicide, chère auditrice, cher auditeur, il y a une injustice. L'État n'a plus le contrôle. Voilà pourquoi on ne vous citera jamais les raisons qui amènent 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie au Québec par jour. Alors l'incompréhension justement des suicides nous jette dans la confusion, dans la révolte. Pourquoi justement 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie par jour, je dis bien par jour, et personne ne veut parler. L'échec est total, de 1100 à 1400 personnes par année. Moi, j'arrive plus à... Imaginez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, de 1100 à 1400 personnes par année qui s'enlèvent la vie sans une interrogation aucune de nos politiciens. 1460 personnes s'en vont. Alors quoi? Alors on amène simplement, on les remplace, 250 000 nouveaux immigrants. C'est une question de calcul. Remplaçons le nombre par un autre nombre et on ne parle plus. Cette 25e semaine nationale de prévention des suicides se presse vers sa fin. Demain, c'est son dernier jour. Elle a pour thème « Tu es important pour nous, le suicide n'est pas une option ». Alors regardez, chère auditrice, cher auditeur, l'hypocrisie du terme « Tu es important pour nous », mais en réalité, ils veulent nous dire « Tu n'es pas important pour nous ». Ils disent à celles et ceux qui s'enlèvent la vie « Vous ne vous présentez pour nous, vous êtes qu'un chiffre, ni plus ni moins, c'est comme nous sommes en guerre, on calcule le nombre des victimes et quand ça devient trop, on arrête de compter ». Alors que tu crèves ou non, ça n'a aucune importance. Au Québec, l'individu est un nombre, est un chiffre, ni plus ni moins. Un nombre s'en va et un autre le remplace. Parlez justement de la cause du suicide au Québec est un tabou que personne, je dis bien que personne n'ose s'exprimer, surtout par les médias. Et donc, eux, ils sont des fonctionnaires. Les médias, justement, sont des fonctionnaires pour le service de l'État. J'ai tenté, chère auditrice, chère auditeur, justement, d'inviter des porte-paroles d'organismes comme Suicide Action, Montréal et d'autres organismes qui œuvrent dans la prévention des suicides et à mon grand étonnement, personne n'a voulu aborder la question. Qu'est-ce qui amène les gens à se suicider au Québec? J'étais étonné aussi de la réponse. Monsieur, on peut vous parler uniquement de la prévention, sinon oubliez le reste. Voilà ce qu'on appelle les organismes subventionnés par l'État et qui sont au service de cette subvention. Alors, je ne veux pas non plus vous parler du suicide des autochtones, je ne veux pas non plus vous parler du suicide des forces canadiennes, des prisonniers dans des centres de détention à travers le Québec. Le sujet du suicide mérite un débat public, il mérite une attention particulière et vous devrez mettre le politique face à cette réalité qui n'est pas pour se résoudre le lendemain. Alors voilà, chère auditrice, chère auditeurs, c'est le sujet de ce matin. J'ai souhaité le partager avec vous. J'ai souhaité soulever cette question de comprendre pourquoi de 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Pourquoi un tel nombre dans une société qui s'affiche une des meilleures au monde? Il est où, justement, le meilleur dans une société qui court derrière le suicide pour abréger sa vie, pour cesser de vivre? La souffrance est un tel et à tel point, justement, qu'on peut l'imaginer et de ce fait, on se désintéresse inconsciemment d'un problème qui peut être le nôtre. Bref, qu'est-ce qui amène, chère auditrice, cher auditeur, ce nombre considérable de personnes à se suicider au Québec? Une question que chacun de nous devra tenter pour le moins de trouver une réponse. Après notre thème musical, chère auditrice, cher auditeur, nous allons tenter de rejoindre Monsieur Robert Dubuc. Il est directeur du centre de crise de l'ouest de l'île. C'est un centre qui offre des services aux personnes en état de détresse. Il va nous parler justement un peu de ce centre de crise et répondre à nos questions de ce matin. J'attends justement aussi également ce studio ce matin, Madame Alex Han. Elle est intervenante sociale pour des jeunes femmes en difficulté. Madame Alex nous parlera, si elle est là, elle n'est pas encore rendue au studio, si elle est là, alors nous parlera de son aventure avec le suicide, puisqu'un membre très cher de sa famille s'est suicidé et elle n'a rien pu faire pour l'empêcher. Et justement, vers la fin de l'émission, nous allons aussi tenter de céder la parole aussi à Monsieur Pierre Castanguet qui est de l'endroit. Lui aussi va nous parler un petit peu de cette question-là, de ce tabou qui est le suicide au Québec. Et peut-être aussi, on aura l'occasion de parler aussi avec une autre victime de notre système judiciaire, Monsieur Sylvain Paquette, qui a tout fait pour faire valoir ses droits devant la justice, mais un juge l'a ordonné finalement de ne plus se prononcer en le déclarant plaidant, curulent. Il a pensé sérieusement au suicide. On va lui demander pourquoi s'est-il rendu à cette décision et qu'est-ce qui lui a fait reculer. Alors, chère auditrice, cher auditeur, au micro avec vous ce matin, Adjaz Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les rabis de pouvoir. Je vous invite à demeurer à l'écoute et de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui pousse 3 à 4 personnes de Québécois et de Québécoises de s'enlever la vie par jour au Québec? Restez à l'écoute. On va revenir après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. On est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse finit par se livrer. Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Et notre sujet d'aujourd'hui, cette semaine-là de la prévention contre le suicide. Et j'ai directement avec moi, Monsieur Robert Dubuc. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, Monsieur Robert Dubuc, vous êtes directeur du Centre de crise de l'Ouest de Lille. Est-ce exact?
Oui, exact.
Alors voilà, donc vous savez mieux que moi ce chiffre-là qui, d'abord je commencerai par cette question-là qui m'étonne énormément, ce chiffre-là de 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie au Québec. Avant d'arriver à cette question-là qui me dérange énormément, voulez-vous nous présenter votre centre? Qu'est-ce que vous faites dans ce centre-là? Depuis quand il existe pour les gens qui nous écoutent ce matin?
Bon. C'est que, dans le fond, moi, je suis directeur du centre de crise de l'Ouest de l'île et on couvre, dans le fond, tout l'Ouest à partir d'environ d'Orval jusqu'à la fin de l'île. Et nous, on a été créé il y a 27 ans comme plus grand centre au Québec. Je suis aussi président du regroupement des services d'intervention de crise au Québec. Donc, je suis au courant un peu de ce qui se passe un peu partout au Québec. Et depuis 1987, il y a 8 centres qui ont été formés pour désengorger les urgences psychiatriques. Ça a été mis en place par la ministre Thérèse Lavoirou à l'époque, Madame Lavoirou. Et on offre des services de téléphonie 24 heures, 7 jours par semaine. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. On n'a aucun répondeur. Donc, on répond peut-être à 8500 dans mon secteur à moi. Donc, si on calcule les 21 centres, c'est beaucoup d'appels que les gens peuvent nous faire. Donc, on a l'appel téléphonique. On a aussi un service d'hébergement. On peut héberger les gens à court terme. Court terme, ça peut être une journée. Ça peut être 10 jours. Tout dépend des besoins de la personne à ce moment-là. On fait d'évaluation aussi en personne. On se déplace. On va rencontrer les gens à l'extérieur pour faire une évaluation avec eux des besoins qu'ils se trouvent à avoir. Donc, on peut référer par après à plusieurs organismes qu'il y a dans l'environnement immédiat parce qu'on essaie de garder le plus possible les gens près de chez eux. Et on a aussi... dans le fond, un suivi. On assure aussi un suivi court terme qui peut aller jusqu'à environ 3 mois environ. Et à ce moment-là, nos intervenants se déplacent et vont rencontrer les gens à l'extérieur du centre ou bien ils peuvent aussi les rencontrer au centre. C'est des choses qui peuvent se produire. Et on travaille énormément aussi avec nos partenaires, que ce soit dans le fond la SPVM, les policiers de Montréal. Mm-hmm. On a quelques postes de quartier dans le secteur. On travaille beaucoup aussi avec le Centre des services de santé et services sociaux, là, les CLSC, les équipes des CLSC et tout. L'urgence, bien entendu, on a beaucoup de références de leur part et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on fait chez nous et c'est ce qui se fait un peu partout ici en province.
Excellent. Et vous avez, M. Leduc, j'imagine que vous avez même des services d'hébergement, hein, si je ne me trompe pas.
Oui.
Oui. Alors,
c'est ça, on a un service d'hébergement. C'est variable d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits qui peuvent avoir deux lits. Moi, j'ai 8 chambres pour recevoir les gens. Donc, puis même présentement, on est en train de faire un agrandissement pour essayer de répondre davantage à la clientèle. C'est qu'il manque de place au niveau de l'hébergement pour les personnes qui ont des mobilités réduites. Donc, on est en train de faire un agrandissement avec 2 chambres pour pouvoir recevoir cette clientèle-là. Présentement, à Montréal, il y a seulement 2 chambres qui sont disponibles. Une au centre de crise Tracom et une au centre de crise qui se situe à Verdun, l'autre maison. C'est fait qu'on essaie autant que possible de recevoir les gens. Tout est gratuit. Mmh. Ça leur coûte rien. La nourriture est fournie toute. Puis, on fait des démarches avec eux aussi pour qu'ils puissent, dans le fond, dans le processus de rétablissement là, de leur situation.
Mais vous êtes, M. Dubuc, vous êtes aussi, ça veut dire que vous êtes à l'écoute vraiment 7 jours, 7, 24 sur 24.
Oui, effectivement. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre au téléphone. Et comme je vous disais, on n'a aucun répondeur. Et ce qui est intéressant dans notre organisation de service, et ça, je me dis, là, puis c'est une chose qu'on se dit souvent, le Québec ne peut pas se permettre de perdre un centre de crise au Québec.
Très bien.
Ouais. Parce qu'on a vraiment ce qui est demandé, c'est l'offre de service complet. On reçoit un appel téléphonique, on fait l'évaluation téléphonique, on peut, à ce moment-là, référer à notre équipe mobile qui va se déplacer. Il y a une évaluation dans le milieu. On peut amener la personne en hébergement si elle a besoin. Quand elle a terminé, on peut lui offrir le suivi à l'extérieur pendant une période d'environ 3 mois. Donc, on a vraiment un continuum complet au niveau des services.
Mais heureusement, M. Dubuc, vous êtes là. Hein, parce que ce que vous me disiez justement tantôt, que comme quoi vous avez besoin d'un grandissement, il manque de place. Est-ce que ça veut dire que les chiffres, il est en train d'augmenter de ces gens-là qui souffrent, qui sont des... qui peuvent à tout moment se suicider?
Si je regarde, la clientèle qu'on reçoit, nous, c'est la clientèle qui, bon, c'est une clientèle adulte de 18 ans à 99 ans. Mm-hmm. On va pouvoir, dans le fond, accueillir là, bientôt. Et cette clientèle-là peuvent avoir des problèmes de santé mentale, peuvent avoir des problèmes qui sont des problèmes plus sociaux. Ça peut être des pertes d'emploi, ça peut être des divorces, des choses.
Exact. Hein? Mm-hmm.
Et il y a aussi plusieurs d'entre eux, ces personnes-là qui sont dans une situation précaire au niveau du suicide.
Oui, oui.
Donc, on a pas nécessairement une augmentation, mais dans le cadre actuel de toutes les réformes et de tout ce qui se vit au Québec, on a une, dans le fond, on pense sérieusement qu'il va y avoir une augmentation de la clientèle dans les mois à venir.
Ça veut vous parler d'austérité, c'est ça?
Ben, je parle d'austérité, oui, mais je parle aussi, dans le fond, de tout ce qui se passe partout.
Exact.
Si on regarde juste, je prends un exemple bien rapide, Target, qu'on apprend qui ferme, le nombre d'employés qui vont perdre leur emploi. Il y en a que c'est des couples qui travaillent là. Donc, les deux perdent leur emploi. Il faut qu'ils se retrouvent quelque chose. Tout dépend de l'âge qu'ils ont. Et tout ça, souvent, c'est pas facile, après 40 ans, de trouver un travail. Fait que c'est comme... On pense effectivement, avec toute la réorganisation qui va se faire, que les gens vont être un peu plus en détresse qu'ils le sont présentement.
C'est vraiment le mot juste là, la détresse, la crise et tout. Vous avez suivi cette évolution, vous avez suivi cette crise, vous avez suivi ces gens-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin de ces gens-là? Ces gens-là, cette clientèle-là qui vous appelle.
Le problème, c'est que les gens ne nous connaissent pas.
Mm-hmm.
Comme je vous dis, moi, ça fait 27 ans que j'existe, comme d'autres centres aussi, ça fait 27 ans, et les gens ne nous connaissent pas. Donc, on est présentement en train de... on met en place une campagne publicitaire. On a une conférence de presse vendredi prochain, le 13. On est allé chercher des porte-paroles. On a essayé de s'organiser le plus possible pour avoir une tribune pour que les gens nous connaissent, pour pouvoir justement aider le plus de gens possible.
Ouais,
parce que souvent, les gens qui sont en détresse ne savent pas où aller. Ils peuvent appeler dans des endroits, puis on va leur dire, ben écoutez, on sait pas trop... Tandis que s'ils nous appellent, à ce moment-là, puis s'ils nous connaissent davantage. Et si les gens sont sensibles aussi au changement dans leur environnement, je m'explique. Oui. Et que si je m'aperçois que j'ai une personne dans mon environnement, que des comportements qui sont changeants, il y a un peu plus d'isolement, des choses du genre, ben il faudrait que je me préoccupe, moi, comme humain, de l'autre personne en lui demandant s'il y a quelque chose qui va pas. Et à ce moment-là, on espère qu'ils vont être capables de se rappeler qu'on existe, s'ils ont entendu parler de nous, pour pouvoir nous référer les gens dans nos différents centres.
Oui, mais M. Dubuc, je vous corrigez si je me trompe, la semaine cette semaine-là qui est la prévention contre le suicide et tout, elle débute du 1er février jusqu'au 7, hein, c'est ça, si je me trompe. Demain, c'est 7 jours, hein, cette semaine nationale. Ce que je veux savoir maintenant, comment pouvez-vous expliquer les médias, le désintéressement des médias? Les médias, par exemple, vous n'êtes pas connu alors que c'est le rôle des médias de vous faire connaître à travers la population et sensibiliser la population de votre existence.
Je dois vous dire, j'ai des fois un peu de difficulté à comprendre qu'on n'est pas connu, effectivement.
Exact.
Ça fait 27 ans qu'on est utilisé, comme je vous dis, à plein. Là. C'est très rare que dans nos centres, nos gens sont là à attendre qu'un client nous appelle ou qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et peut-être que c'est nous aussi qui n'avons pas pris les devants pour se faire connaître. Par contre, comme je vous dis, si je prends mon centre à moi, il y a eu une parution dans la Gazette il y a environ une année et demie. Mmh. Il y a quelqu'un qui est venu au centre, qui a fait des interviews, ça a passé sur leur site. Il y a eu, je pense qu'on avait 3 pages dans la Gazette qui parlaient du centre et de ce qu'on fait et tout ça. Il y a aussi le Journal de Montréal, la même chose. Mais est-ce que les gens ont peur de nous appeler? Je ne sais pas. C'est très confidentiel chez nous. N'importe qui pourrait venir. Un ministre pourrait venir chez nous, puis il n'y a pas personne qui le serait, parce qu'on est tenu par la confidentialité. Donc, c'est à quelque part, c'est un peu pour ça cette année. Ça va faire 11 ans environ qu'on est au niveau du regroupement là, qu'on est fondé. Donc, on veut se faire connaître davantage. Et on prend, dans le fond, les médias, mais c'est sûr qu'on n'a pas les moyens d'aller vers une publicité à la télé, mais on va aller sur le web au moins, là, qui est quand même un nouveau média très utilisé.
Monsieur Robert Dubuc, pour les gens qui vous écoutent ce matin, voulez-vous leur dire comment ils peuvent vous rejoindre, comment ils peuvent, les moyens?
Dans le fond, on a un site Internet. Présentement, beaucoup de gens ont un site Internet, donc ils peuvent aller sur le site centredecrise.ca. Et ils vont voir, d'ailleurs, c'est notre nouveau site qu'on se trouve à avoir là. Et tous les centres, ils sont présents. Et on peut voir un nouveau slogan qu'on met en place, c'est « J'ai ras-le-bol ».
Voilà.
J'ai ras-le-bol, appelle au centre de crise le plus près. Et au niveau de notre site, c'est facile d'avoir les numéros de téléphone de chacun de nos centres.
Oui, pouvez-vous communiquer ce numéro-là, numéro général, est-il un numéro général?
On n'a pas comme tel un numéro général comme celui de la prévention du suicide. Au niveau de la prévention du suicide, on a un 866 appel qui est à la grandeur de la province.
Oui.
Présentement, un 866 appel est répondu par des centres en prévention du suicide. On a certains de nos centres au Québec qui ont les deux mandats, et centre de crise et centre de prévention du suicide. Mm-hmm. Mais éventuellement, le 866 appel va transférer au 811, qui va être l'info sociale, qui devrait être implantée à partir du 1er avril là, dans toutes les régions du Québec. Donc, ça, c'est c'est une ligne qui va pouvoir recevoir les appels et après pouvoir nous les transférer si quelqu'un ne sait pas où s'adresser ou qui n'a pas accès à l'Internet aussi. Mmh. Mais on n'a pas comme tel, nous, un numéro de téléphone central qui nous diffuse dans chacun de nos centres, tout dépend des régions où on est. C'est un des malheurs qu'on se trouve à avoir, si on peut dire. Mais en appelant même au 1-866 appel, ils peuvent, eux, nous transférer, parce que ça arrive qu'ils nous transfèrent des appels dans nos centres.
Monsieur Dubuc, avez-vous un chiffre, combien de personnes vous appellent, votre clientèle, par jour, par mois? Avez-vous des chiffres?
Ben, si je regarde, présentement, au centre de crise de l'Ouest de l'île, on devrait avoir, d'ici le mois de mars, environ 8500 appels.
My God, oui, oui.
On va avoir répondu peut-être en hébergement environ 300 clients dans l'année. Ça peut avoir l'air peu, 300 clients,
oui.
Mais c'est quand même beaucoup. c'est quand même un taux d'occupation au-dessus de 70% qu'on se trouve à avoir chez nous. Fait que c'est quand même beaucoup d'appels qui sont faits. Puis faut pas oublier qu'un appel peut aussi générer plusieurs appels de notre part pour trouver des services aussi pour ces personnes-là. Fait que c'est pas juste une personne appelle puis ça vient de s'arrêter là. Fait que les gens sont très sollicités là chez nous pour concernant les appels de la clientèle.
Mais vous pouvez maintenant les crises, ces crises-là, les gens qui sont en crise maintenant. Je sais que le nombre des hommes, ils sont peut-être les statistiques que j'ai devant moi, ils sont plus élevés que les femmes, ou les femmes, selon vous, c'est quoi votre réaction?
Effectivement. Si on regarde au niveau de la prévention du suicide, les hommes ont toujours eu un taux plus élevé
80%
de situations suicidaires. Mais il y a une chose qui me réjouit. Si on regarde par rapport à l'hébergement chez nous et dans d'autres centres aussi, on s'aperçoit que les hommes, on en a de plus en plus. Donc, je pense que la société tend à changer. Ou du moins, on tend à dire aux hommes, hey, regarde là, t'es pas fait en fer, tu as des émotions, t'es capable d'aller te chercher de l'aide, t'es capable de te faire aider. Parce que trop souvent, dans notre société, on a le rôle masculin qui est très important. Je dois m'occuper de ma famille, je dois tout faire, je dois être fort, je dois pas pleurer, tout ça. Je pense que c'est encore présent, mais on voit comme une tendance où on a plus d'hommes qui viennent dans nos services. Ce qui fait que ça, je trouve que c'est un point extrêmement positif. Et il faut continuer à encourager les hommes à nous appeler pour justement pouvoir recevoir de l'aide. Et éviter qu'on se retrouve aussi avec un taux très élevé. Là, dans le fond, c'est 3,4% de plus que les femmes. Fait que c'est énorme.
Mais M. Dubuc, quand je vous dis le chiffre entre 3 et 4 personnes qui suicident, qui s'enlèvent la vie par jour, est-ce que avez-vous une réaction à ça?
Ça n'a pas de sens. C'est impensable qu'il y ait 3 personnes par jour. C'est beaucoup, ça, dans une année. Mmh. On parlait de 1072 en 2012, au niveau des statistiques environ. Là. C'est énorme. Et comment on peut arriver à diminuer ce taux-là?
Exact.
Il faut en parler. Il faut qu'on soit davantage connus aussi. Il faut que les gens puissent avoir une idée de... Puis ne pas avoir peur d'en parler. Pas seulement une idée, ne pas avoir peur de parler du suicide avec les gens qu'on sent. Puis on dit, on n'osera pas le dire, on n'osera pas demander à quelqu'un « Est-ce que tu penses au suicide? » Parce qu'on se dit, on va lui donner l'idée de... Au contraire, c'est de lui demander et il risque de nous répondre clairement. Et de voir avec lui bon, comment qu'on peut le supporter, comment qu'on peut l'aider, être à l'écoute et tout ça. Et bon, ça en est un moyen simple de pouvoir aider les gens dans notre environnement. Fait qu'il faut être sensible à ce qui se passe autour pour essayer de les aider. Et les hommes, principalement, entre 35 et 49 ans environ, là, c'est une population qui est très à risque. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y en a de plus en plus au niveau des personnes âgées.
Oui.
Le taux commence à augmenter aussi. Quand les gens se retrouvent seuls, la conjointe décède. Souvent, bon, l'homme avant... Si on réfère, il y a de cela, mettons, à 70 ans, les hommes ne s'occupaient de rien au niveau des finances et tout ça. Puis quand ils se retrouvent tout seuls, à 70 ans, 75 ans, 85 ans, je fais quoi, moi, pour payer mon compte de téléphone? Ouais. Je ne sais pas trop comment faire.
C'est justement...
Il faut être soucieux de ça quand ces situations-là arrivent.
C'était justement, M. Dubuc, c'était ma question, qui était justement cette question qui dérange tout le monde de ne pas vouloir parler justement des raisons des suicides. Pourquoi ces gens-là, ils sont vers cette voie-là. Vous venez de citer un petit peu déjà l'isolement, un petit peu la vieillesse, mais il n'y a pas vraiment d'autres raisons pour la clientèle qui est entre 20, 35 ans, 40 ans.
Ben, c'est que on se retrouve quand même dans une... Bon, on parlait de... Bon, les gens, on en a beaucoup d'hommes qui, quand on regarde le rôle masculin qu'on se trouve à avoir au niveau de notre société, c'est bon, il doit être fort, il doit travailler, il doit faire vivre sa famille et tout ça, et il peut pas pleurer et toute la patente. Donc, il y a beaucoup de difficultés à parler de ses émotions. S'il perd son emploi, il faut qu'il se trouve quelque chose d'autre. Si, bon, s'il y a, mettons, 45 ans, puis qui a toujours travaillé à la même place, ça peut être difficile de se trouver un autre emploi. Donc, ils n'arrivent pas à donner le, dans le fond, de répondre à la commande sociale vis-à-vis de sa famille. Donc, à partir de là, il risque de s'isoler. Il va se couper du reste du monde parce qu'à quelque part, il est perdant, il est mauvais parce qu'il n'est pas capable de répondre à ce qu'il devrait y avoir comme possibilité. Là. Lui, normalement, il devrait donner les services à sa famille puis répondre aux besoins de sa famille. Et il n'y a pas ça. Il y a toute la question de les changements. On peut voir, à un moment donné, quand on a des difficultés et tout ça, on a des gens qui vont aller plus vers la drogue, vers l'alcool. Donc, ça aussi, ça peut être
un facteur, oui.
Ça peut amener la personne à être un petit peu plus down, un petit peu plus dépressive. Donc, à penser plus aussi au suicide. Donc, il faut se préoccuper de ça aussi, là.
Oui, exactement, M. Dubuc, parce que pour nous, et pour moi personnellement, je l'ai déjà dit au début de cette émission, que toujours derrière un suicide, derrière une crise, il y a toujours une injustice. Est-ce que j'ai raison de le dire?
Ben, une injustice, pas toujours une injustice, parce que dans le fond, ça peut arriver, oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est qu'on peut avoir, à un moment donné, une période qui est plus difficile et qu'au niveau de la résilience, on a de la difficulté à la surmonter. Et c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose nécessairement de négatif. C'est que l'emploi qu'on peut avoir, ça peut être... Excusez-moi.
Pardon.
Ça peut être un emploi qu'on n'a pas nécessairement choisi, mais qu'on n'a pas le choix, il faut gagner notre vie, et que ça nous amène à déprimer, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah oui.
Et à partir de là, je peux avoir des idées noires, donc c'est pas nécessairement négatif comme tel à la base, c'est quel moyen qu'on prend pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on en parle aussi de cette situation-là? Parce que le fait d'en parler, ça peut nous aider à passer au travers. Mmh. Puis de voir aussi, bon, il y a peut-être d'autres moyens. Il y a peut-être moyen de chercher un autre travail. Parce qu'il y en a des fois qui vont dire, bon, mais moi, ce travail-là, je ne l'aime pas, je le laisse tomber, je vais m'en trouver un autre. Non, peux-tu le garder le temps qu'on trouve quelque chose d'autre pour éviter qu'on végète puis qu'on, à un moment donné, qu'on soit plus capable de rien faire puis qu'on s'isole de tout, même au niveau de l'emploi. On reste à la maison, on ne sort plus à rien de ça. Mmh. C'est un peu...
Oui, mais parce que M. Dubuc, excuse-moi, tout simplement, parce que nous, on a des rencontres, on reçoit des gens ici, c'est au studio et tout, qui nous parlent, par exemple, quelqu'un qui perd ses enfants avec le problème des DPJ, des gens qui sont devant le système judiciaire et puis ils n'ont pas eu justice. Il y a des gens... il y a plein d'injustices qui font pousser aussi, qui poussent les gens à aller malheureusement poser ce geste-là réparable.
Oui, mais injustice, les choses peuvent être perçues des fois comme de l'injustice. Il y a eu des situations au niveau, quand vous parlez de la DPJ, vous parlez des centres jeunesse, il y a eu des situations à un moment donné où une grand-mère voulait avoir les enfants et tout, on lui a refusé d'avoir les enfants. Ça a été très médiatisé, mais on connaît pas tous les tenants et tous les dessous de ces genres de situations-là. J'ai travaillé longtemps au centre jeunesse de Montréal.
Oui.
Je connais bien ce
milieu.
Domaine-là. Et souvent, on va apercevoir seulement, on va voir seulement ce qu'on veut bien nous présenter. Et ce qu'on nous présente, c'est souvent médiatique.
Oui.
C'est très médiatisé, ce genre de situation-là, parce que ça a du punch, comme on pourrait dire. Mm-hmm. Puis je reviens peut-être un peu à ce que vous disiez tantôt, pourquoi on n'est pas connu. Ben on n'a pas de punch, nous. On répond à la crise, puis après ça, on passe à autre chose. Donc,
exact. C'est
pas un sujet qui peut être très volubile et que les gens vont s'intéresser à ça, parce que c'est pas long en ce qui nous concerne.
Oui.
Fait que des situations comme ça, oui, il peut y avoir des parents qui ont des difficultés à s'occuper de leur enfant et on leur retire les enfants. Le problème, souvent, c'est qu'on retire l'enfant aux parents et on ne laisse pas aux parents le soin de continuer dans ce qu'ils sont capables de faire.
Exact.
Un parent qui est capable de s'occuper de la santé de son enfant, exemple, le médecin, le dentiste et tout ça, souvent, on va lui retirer tout ça même. Fait que le parent, effectivement, dans un cas comme ça, il y a une certaine forme d'injustice qui se trouve être là, parce que le parent est capable de faire un bout de chemin avec son enfant.
Oui.
Est-ce qu'on peut pas juste l'aider dans son dans le créneau où il y a plus de difficultés.
Oui. Monsieur Dubuc, de toute façon, nous, vous avez juste cité un exemple parmi... de toute façon, moi, j'ai des centaines. Mais tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, pour les gens qui vous écoutent et puis qui devront normalement avoir recours à votre service et tout, alors vous les conseillez quoi ce matin-là? Pour les gens qui vous écoutent, pour les gens qui vous écoutent ce matin et qui vivent avec des crises et qui devront vous rappeler, vous les encouragez. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin?
Ce que je peux dire, c'est que nous, on est un service de proximité. On est près des gens. On est aussi depuis une année, on se dit, on est un espace d'humanité. On est vraiment au cœur de ce qui peut se passer au niveau de la collectivité.
Oui.
Et on prend tout le monde. Fait qu'il y a vraiment, là, on juge pas personne. On a des équipes de professionnels dans nos milieux. On a beau être communautaire, mais c'est des équipes de professionnels qu'on a dans nos milieux. On a des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux. On peut avoir des psychoéducateurs. On peut avoir des gens qui ont eu une formation en psychologie. Donc, venez nous voir. Ça va vous faire du bien. On a une réponse immédiate aussi. On est très présent. Donc, il faut que les gens osent nous appeler et ils ne peuvent qu'en bénéficier du fait qu'ils nous appellent.
Vraiment, c'est très bien dit, M. Dubuc. Alors, je vous remercie énormément de votre intervention de ce matin et je pense que les gens qui vous écoutent ce matin et surtout ceux qui sont en crise et qui ont besoin de soins, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'appui, ils vont communiquer avec vous. Un grand merci, M. Dubuc.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Au revoir. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale et peut-être on va passer à M. Pierre Castanguet de l'Endroit. Il va nous parler un petit peu de sa réaction par rapport à cette semaine d'intervention contre le suicide.
J'arrive devant le docteur, il me dit comment ça vaut la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ce que je lui ai dit. J'ai plus rien qui me fait rien si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal, non. Tout seul, dans mon petit pays au nord de l'Amérique, y'a du monde qui s'ennuie par la télévision. Ailleurs c'est la guerre. Je partage mon angoisse, ma douleur, ma folie avec la planète Terre ou avec encore mieux je l'espère avec tous les humains. La tête hantée de l'humain. C'est là que je me sens à peine. Le vent souffle dans mes cheveux, de la musique de tempête. Mes deux yeux grands ouverts, le sommeil est pas là. 50 millions d'idées qui se bousculent dans ma tête. Montréal, c'est ta porte, je t'ai posé pour toi. Oh! Je suis fini, je sais trop. La ville est trop immense et ma tête est trop sale. J'arrive devant le docteur, il me dit comment ça va la vie. J'ai plus envie de vivre, c'est ce que je lui ai dit. Y'a plus rien qui me fait rien si tu veux mon avis. Y'a sûrement quelque chose qui est pas normal, non. We'll be right back.
Voilà, bonjour chère auditrice, cher auditeur, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et cette semaine, on parle ce matin de cette semaine nationale de prévention des suicides. Et j'ai avec moi en direct Monsieur Pierre Castanguet de l'Ondroit. Bonjour Monsieur Castanguet.
Bonjour Monsieur.
Monsieur Castanguet, juste la question, moi, que j'aimerais bien vous la poser. Vous savez, on dit en 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Avez-vous une réaction à ça?
C'est extraordinaire de voir le nombre. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, 76% des gens qui se sont suicidés en 2008, c'était des hommes. 24% c'était des femmes. Ce sont des victimes, évidemment, de circonstances
Monsieur Castanguet, je vous corrige, qui sont liées aussi à des injustices que ces gens-là vivent. Exact. Monsieur Castanguet, je vous corrige. Moi, les statistiques que j'ai, c'est 79% des hommes et le reste, c'est des femmes.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai des statistiques antérieures aux vôtres, là, probablement, c'est ça. Vous savez, quand on est rendu à 80 et 20, ben ça veut dire qu'il y a énormément d'hommes qui se suicident.
Oui.
Et la plupart des... Le groupe le plus touché, en tout cas, c'est les 35-49 ans.
Mm-hmm. Mais quand même, M. Costanguet, 3-4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour au Québec, est-ce que c'est pas un signe alarmant? Est-ce que c'est pas... Nous sommes devant un vrai problème. Et le fait de personnes qui veulent en parler, on parle de la prévention, mais on ne parle pas des causes de ce suicide.
Oui, effectivement. Oui, on parle de prévention, mais je pense que c'est important de faire la prévention, évidemment. Mmh. Et vous avez vu que le nombre, quand même, est impressionnant. Les causes, elles sont multiples. Hein?
Oui.
Mais c'est souvent des causes qui sont reliées au vécu intime de la personne.
Hein?
Des fins de relations, des problèmes financiers, des problèmes d'injustice, de tous ordres. Hein? Des problèmes de fin d'emploi qui se sont mal déroulés, de harcèlement au travail, des problèmes de santé qui se détériorent, des gens qui sont sur la CSST, par exemple, et dont la condition se détériore, puis qui en même temps font face à des arrêts de paiement ou à des difficultés, des tracasseries administratives, des gens qui sont victimes au niveau de l'IVAC, là, des gens qui sont victimes aussi des accidents d'auto. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes avec l'alcool, les drogues, donc la consommation. Il y a des dépendances multiples, des dépendances affectives aussi qui tournent mal. Alors, tout ça nous permet de comprendre que dans le vécu des gens, ça ne tourne pas rond et que le fait d'aller dans la prévention... Mais permettez-vous de donner un numéro de téléphone?
Oui, vas-y, je vous en prie.
Oui, je rappelle aux gens là, que si ça ne va pas, on peut toujours appeler à 1-866-APPEL, APPELLE, et ça, c'est le numéro de prévention suicide 24 heures sur 24. Ouais. 1-866-APPEL ou 1-866-277-3553. Et c'est fort important de pouvoir réagir si on sent qu'on est suicidaire. Mmh. Vous savez, il y a une expression, c'est le coq, C-O-Q, c'est comment, où et avec quoi. Quand on sait qu'une personne sait comment elle va le faire, où et avec quoi, si la distance en temps est moins de 24 heures, c'est-à-dire que la personne est prête à passer à l'action, c'est une urgence.
Oui.
Et si vous êtes en contact avec quelqu'un qui sait comment, où, avec quoi il va le faire à l'intérieur de 24 heures, on est même justifié d'appeler le 911 à ce moment-là parce que c'est une urgence immédiate pour la santé et la vie de la personne.
Monsieur Castanguet, le mouvement Action Justice dit et le répète que derrière chaque suicide, il y a une injustice. Est-ce qu'on a raison?
Écoutez, je pourrais pas vous dire que derrière chaque suicide, systématiquement, il y a une injustice, mais derrière plusieurs suicides, il y a des injustices. Et quand l'injustice n'est pas là, il y a quand même auprès de la personne qui est suicidaire impression d'injustice.
Exact.
Alors, oui, c'est vrai que les injustices sociales, les injustices au niveau du travail, au niveau monétaire, les négociations de fin de couple qui tournent mal avec des problèmes de garde d'enfants, hein, c'est facile à ce moment-là. Puis vous le voyez d'ailleurs, Parce que comme nos suicidaires, c'est des gens, la plupart du temps, entre 35 et 49 ans, sont des gens qui sont dans une transe d'âge, qui sont le plus souvent au travail, qui ont des responsabilités, des familles, des enfants. Et ces tranches d'âge-là sont cruciaux. C'est crucial, parce que à ce moment-là, tous ces problèmes d'injustice-là arrivent à ces moments de la vie où on est à négocier des choses avec des employeurs, avec des prêteurs, avec des banques. Et c'est à ce moment-là de la vie active que c'est très dangereux pour des personnes qui se sentent coincées de passer au suicide. Vous savez, c'est l'idée d'un cône, d'un tunnel. Vous devez voir ça comme un tunnel. Au début, j'ai des difficultés dans ma vie, puis je vois 5 solutions et le suicide. Exact. Puis à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a une solution qui ne fonctionne pas, puis ça passe à 4 et le suicide, 3, 2. Puis à un moment donné, la personne arrive dans un cul-de-sac et là, elle ne voit plus que le suicide. Et c'est important à ce moment-là d'être en contact avec des ressources, parce que les ressources sociétales peuvent faire une prévention efficace. Nous, à l'endroit de Laval, puis il y a un groupe aussi de prévention des droits en santé mentale, de protection des droits à Montréal. Nous, à l'endroit de Laval, quand on rencontre ces gens-là, on leur montre que oui, il y a un accès, mais oui, il y a une sortie aussi à cette situation difficile-là, et qu'on peut exercer certains droits, on peut défendre des droits, on peut trouver des ressources qui vont les aider à se sortir de problèmes financiers. Mais tant que la personne n'a pas ça, bien, souvent, elle passe à l'acte.
Oui, M. Castonguay, maintenant, nous sommes dans cette semaine-là de suicide, la semaine nationale de suicide contre la prévention du suicide. Elle a commencé à débuter du 1er février et elle va finir demain. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer, à votre avis, pourquoi les médias n'en parlent pas? Et surtout, même si on parle très peu de la prévention, personne n'ose de parler des raisons de suicide.
Parce que les raisons du suicide attaquent directement la façon dont on vit, notre façon de faire en société, notre façon de gérer en tant que gouvernement, en tant que ministère, en tant qu'institution bancaire. Et ça nous remet en cause. En fait, la prévention du suicide, ça devrait être à l'année, et ça passe par la remise en cause des formes de pouvoir, les formes qui s'exercent. Je vous donne un exemple là, qui est tout à fait actuel. On a un gouvernement qui pense à reporter encore la possibilité pour les jeunes d'avoir accès à des emplois pour une année supplémentaire. Il y a des contrats qui finissent en mars. Il y a des jeunes là-dedans qui travaillent à temps partiel et qui ont besoin de travailler à temps partiel et qui sont déjà loadés, qui sont déjà surchargés au niveau des études, qui ont des responsabilités à rencontrer. Oui. Il ne faudrait pas ajouter chez certains de ces jeunes-là un problème de déception amoureuse en même temps que le gouvernement annonce que il renouvellerait sa décision de ne pas embaucher dans les ministères. Parce qu'à ce moment-là, ça fait des gens qui ont des tendances suicidaires pour certains d'entre eux. Vous savez, on peut coincer les citoyens facilement en prenant des décisions politiques, sociales, culturelles. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont coincés, ils ne voient pas le bout du tunnel. Alors, chaque décision concernant le ministère de la Santé, le travail, le transport, les finances, les impôts ont des impacts et peuvent se calculer en fin de compte comme étant des facteurs qui ont contribué à augmenter ou à rabaisser le taux de suicide.
Exact. Monsieur Castonguay, juste parce que je veux remercier parce que j'ai un autre cas qui va nous en parler justement. C'est quelqu'un qui a voulu passer au suicide mais il a reculé de le faire et j'aimerais bien le céder le micro.
Ça fait plaisir,
alors je vous dis un grand merci, Monsieur Castonguay, de nous avoir accepté de répondre à notre question de ce matin. Merci bien.
Merci.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, on va juste essayer de communiquer avec Sylvain, M. Sylvain Paquette. C'est une victime qui, lui, est un cas un petit peu particulier parce qu'il a à tout prix voulu avoir justice, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir comme des centaines et des centaines de personnes dans son cas, lui. Alors, on va essayer de tenter de le rejoindre pour savoir sa réaction par rapport à tout ça. Alors, peut-être on l'a. Allô, oui? Allô?
Oui.
Bonjour, Monsieur Sylvain Paquette.
Oui.
Alors, écoute, Monsieur Sylvain Paquette, je sais que vous êtes quelqu'un qui a lutté beaucoup devant les tribunaux pour avoir justice, parce que vous avez vécu avec ce sentiment d'injustice. Et à un moment donné, tout ce qu'on sait, c'est que moi, je sais personnellement, vous voulez vraiment passer à l'acte, vous voulez s'enlever la vie. Et heureusement, vous ne l'avez pas fait, parce que pouvez-vous nous dire votre réaction? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette pensée noire?
Ben, parce qu'à un moment donné, à force de... Bon, vous connaissez très bien mon dossier, M. Gétouni.
Oui. On a 4 minutes, M. Paquette. Il faut vraiment que tu vas centrer un petit peu sur la réponse.
Oui, de se faire taper sur la gueule par le système judiciaire.
Oui.
Ben, à un moment donné, notre choix est où?
Quand vous dites votre choix, vous êtes quelqu'un qui a eu un accident, 27 fractures, c'était dans le coma, et vous allez aller devant la cour pour demander justice. Vous n'avez pas eu cette justice-là.
J'ai pas eu cette justice-là parce qu'il y a eu un règlement hors cours qui a fini avec les deux avocates qui ont réglé ce règlement hors cours-là. Il y avait une poursuite de plus de 280 000 qui a fini par un règlement hors cours sans aucune signature de ma part,
oui,
d'un montant de 5 000. Ça s'est passé en 2009.
Oui.
Et depuis ce temps-là que je me bats pour dire, j'ai jamais accepté ça.
Oui.
C'est une entente préméditée des deux avocates. Puis à un moment donné, oui, j'ai pensé.
M. Paquette, juste pour vous dire, de 2004, de 2009, vous avez commencé votre combat jusqu'en 2014. Un juge qui vous a déclaré curulent.
Mais la cour d'appel là-dessus a tranché.
Oui.
Parce que cette avocate-là m'interdisait de déposer tout recours devant tout système judiciaire, là.
Non, mais
on parle même d'un système administratif, un tribunal administratif. Parce que là, Dr Mayou, présentement, il est dans mon dossier pour me faire reconnaître invalide dû à mes 27 fractures, traumatismes crâniens et tout ça. Fait que là, Dr Mayou est dans mon dossier.
Monsieur Paquette, il nous reste 2 minutes. J'aimerais bien savoir, vous avez sorti du tribunal Saint-Jérôme, vous êtes allé directement, vous voulez passer à l'acte et puis vous avez refusé. À ce moment-là, je dis non, je le fais pas. Pourquoi?
Non, parce que là, Dr Mayou s'est impliqué dans mon dossier, puis à un moment donné, dans ce dossier-là, bon, le but est de me faire reconnaître invalide. Puis si ce point-là, il est gagné, bien, ça vient me soulager énormément.
Oui, mais M. Paquette, vous avez dit non, je ne passerai pas l'acte parce que je veux continuer à me battre et je veux à un moment donné...
Parce qu'à un moment donné, si je passe à l'acte, je donne raison
exact
à ces bourreaux-là,
ouais,
malveillants.
Exactement. Très bien dit.
Que
oui,
mon combat ne vaut pas la peine.
Et la vie, elle vaut la peine si on... Si,
ça, oui. Mais parce que moi, j'en viens juste à dire que si jamais je passerais à l'acte,
oui,
je viens tout simplement de donner raison à ces bourreaux-là malveillants, oui, oui, de notre
mais quand même, judiciaire. Mais quand même, M. Paquette,
les avocats,
M. Paquette, quand même...
Que mon combat, quelque part, ne vaut pas la peine. Puis que ma vie ne vaut pas la peine. Non.
Mais
ma vie vaut la peine
très bien
de
dit
me battre,
oui, oui, oui,
pour démontrer que j'ai totalement raison.
Oui.
Mais pourquoi la justice
Monsieur Paquette, non. Monsieur Paquette, il faut dire à tout le monde qui vous écoute qu'il faut lutter. Hein, il ne faut pas baisser les bras.
Non, il faut lutter. À un moment donné, comme on dit, la vérité finit toujours par sortir.
Très bien dit. Je te remercie beaucoup, Monsieur Paquette, pour votre intervention. Malheureusement, il ne reste plus de temps pour cette émission-là. Merci, au revoir. Chers auditrices, chers auditeurs, sur ça, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis, passez une excellente fin de semaine. Et pensez vraiment à cette question-là. Pourquoi il y a 3 à 4 personnes au Québec chaque jour qui s'enlèvent la vie? Vraiment une question qui mérite notre attention. Voilà, alors sur ça, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.
Quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est baptisé.
Envie de vous faire connaître? Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de nos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Vous préparez votre dossier pour la résidence permanente ou vous faites votre demande de citoyenneté? Vous devez présenter le TEF professionnel, TEFAC ou TEF Canada? Une seule adresse à Montréal, ALC Montréal, 514-844-4849. Appelez dès maintenant au 514-844-4849 ou visitez-nous au alcmontréal.com et réservez votre place. On vous attend!
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.